On va revenir sur le sommet russo-américain en Alaska pour discuter de l'Ukraine, et ce, sans l'Ukraine. Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront, ce sera ce vendredi en Alaska. L'Ukraine n'a pas été invitée, je viens de vous le dire. On en parle avec Isaac Franco, justement, analyste politique et chroniqueur de l'émission Chercher l'erreur, bien entendu, et par ailleurs, spécialiste à sa façon des États-Unis. On écoute Isaac Franco, il est au micro, bien sûr, de Lucie Gilson.
Bonjour Isaac Franco.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Donc, comme je le disais, vous êtes analyste politique, chroniqueur de l'émission Chercher l'erreur, diffusée donc tous les lundis sur Radio Judaïka. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka, donc. Et on va parler de l'Ukraine aujourd'hui. Donald Trump a annoncé la semaine dernière qu'il rencontrerait Vladimir Poutine. Après quelques tergiversations, cette rencontre aura bien lieu, donc en Alaska, ce vendredi. C'est un lieu assez symbolique, géographiquement, à mi-chemin entre la Russie et les États-Unis, n'est-ce pas ? C'est aussi un territoire historiquement disputé. Est-ce que ça va donner un peu le ton à cet entretien ?
Oui, c'est un territoire symbolique parce que c'était un territoire qui appartenait à la Russie et qui a été vendu, donc il n'est plus disputé. Il a été vendu, il a été acheté par les États-Unis et la possession, la propriété de ce territoire n'est pas contestée désormais par la Fédération de Russie. Mais ça se passe sur le territoire américain et tout près, naturellement, de la partie orientale de la Fédération de Russie, du territoire de la Fédération de Russie.
Donc l'idée, c'est, d'après ce que j'ai compris, de convenir d'un partage de territoire. Hein. Pour l'Ukraine, en réalité, il y a de grandes chances que l'Ukraine elle soit quand même perdante, n'est-ce pas ?
Alors, l'idée, c'est de mettre... D'abord de trouver les termes d'un cessez-le-feu qui permettrait d'ouvrir des négociations qui aboutiraient à la fin de la guerre. Il ne s'agit pas de mettre un terme à la guerre dans ces négociations qui commenceront entre les deux présidents le 15 août, mais d'entendre pour les États-Unis quelles sont les revendications russes et de les entendre très clairement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle probablement ça se passera entre les deux présidents russes et américains et en l'absence du président ukrainien. Donc, il est très possible, les conditions russes sont connues, c'est une reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, qui a déjà été conquise ou annexée par la Fédération de Russie en 2014, et puis les oblasts de l'Est de l'Ukraine, les quatre oblasts à majorité russophone et russophile, et puis une promesse de l'Occident que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, une forme de neutralisation du territoire ukrainien, une sorte de finlandisation avant que la Finlande ne rentre elle-même dans l'OTAN il y a de cela 2 ans.
Mais une des conditions, c'est également que les accessions à l'OTAN, la Russie n'aura pas droit de vision là-dessus.
C'est un engagement des États-Unis que ce que les Russes attendent, c'est un engagement des États-Unis que l'Ukraine ne pourra pas rentrer dans l'OTAN. Bon, on sait que le pouvoir décisionnaire des États-Unis dans l'OTAN est prioritaire. Donc, à partir du moment où les États-Unis acceptent de fournir cette garantie, eh bien, les Européens qui assistent à cette négociation en spectateur, plus qu'en acteur, devront l'accepter. Maintenant, il faudra voir si le président américain acceptera de prendre une décision comme ça qui engagera l'avenir de l'Ukraine de cette façon-là, cette neutralisation. Vous savez, cette guerre, elle est partie sur des mauvaises bases parce que vous avez un belligérant qui cherche à la gagner, la Russie, et l'autre belligérant, l'Ukraine, qui cherche à ne pas la perdre. Et cette différence, c'est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle la Russie traîne des pieds avant de conclure un cessez-le-feu, parce qu'elle a la main pour l'instant. Elle engrange victoire sur victoire, même si elles sont pas très très importantes et pas très spectaculaires. Mais en tout cas, c'est la Russie qui a la main. Donc elle va négocier en position de force. Elle va dire... bon, moi je peux continuer jusqu'au moment où les Ukrainiens diront pouce. Maintenant... L'arme des Américains pour contraindre les Russes à un cessez-le-feu et à des négociations sérieuses, c'est naturellement les sanctions. qui frappe déjà la Russie, qui pourrait être encore renforcée, et surtout les sanctions secondaires. Parce que on sait que pour l'instant, la Russie, elle contourne les sanctions qui la frappent en vendant ses hydrocarbures à des pays plus ou moins complaisants avec les sanctions américaines qui pèsent sur la Russie. C'est-à-dire que elle vend son pétrole, la Russie, essentiellement à l'Inde, qui est devenu un exportateur majeur sur le marché du pétrole, alors qu'elle n'a pas de réserve. Et pourtant, elle pèse sur le marché en exportant du pétrole qu'elle a acheté à bas prix à la Russie. Et donc, si les États-Unis mettent des sanctions secondaires sur les pays qui se montrent complaisants à l'égard de la Russie en achetant son pétrole à bon marché et en le remettant sur le marché. Vous savez, pour l'instant, en Europe, on achète du pétrole russe, mais qui est étiqueté pétrole indien, par exemple. Donc, il s'agit de cela, surtout pour les Américains, pour faire pression sur les Russes. Il y a déjà des sanctions sur la Russie directement, mais il pourrait y avoir des sanctions indirectes, ce qu'on appelle des sanctions secondaires, sur tous les pays qui contribuent avec la Russie à contourner les sanctions américaines.
Alors, de son côté, vous l'avez un peu mentionné, on a l'impression que c'est la Russie qui a la main, et plus particulièrement Vladimir Poutine, le secrétaire général de l'OTAN. Il a également fait savoir que cette réunion, ce serait l'occasion de tester Poutine sur ses réelles intentions. Est-ce que c'est aussi l'un des objectifs de cette réunion ? Est-ce que effectivement, on va connaître les réelles intentions de Poutine à l'issue de cette réunion.
C'est ce que je disais en préambule. C'est surtout écouter quelles sont les conditions que la Russie accepterait pour mettre un terme au combat, dans un premier temps, c'est-à-dire un cessez-le-feu, et ensuite ouvrir de véritables négociations qui aboutiraient in fine à la paix, à la cessation définitive des combats. Donc, il faudra écouter les Russes. Et c'est surtout ce que Trump va faire, c'est écouter quelles sont les conditions auxquelles les Russes accepteraient de mettre fin au combat. Et les Américains feront comprendre aux Russes que ces conditions devraient être réalistes, sinon, eh bien, les sanctions, celles que j'évoquais tout à l'heure, pourraient blesser plus encore la Fédération de Russie.
Aujourd'hui, on peut quand même, vous l'avez également mentionné, l'Ukraine n'est même pas invitée à cette réunion. Et est-ce qu'on peut vraiment statuer d'un accord sans que l'un des protagonistes belligérants soit invité à la table de négociation ?
C'est effectivement choquant de décider du sort de l'Ukraine en son absence. Ça fait penser un peu à ce qui s'est passé en 1938 avec le sort de la Tchécoslovaquie, dont les quatre grandes puissances de l'époque ont décidé en son absence. Bien, maintenant, il s'agit pas d'accepter tous les termes de la Russie, il s'agit d'écouter ce qu'elle a à dire et de voir dans quelle mesure il y a moyen de faire émerger des conditions d'un cessez-le-feu qui satisfassent plus ou moins tout le monde. Il s'agit pas de décréter aujourd'hui le sort de l'Ukraine pour l'avenir, il s'agit simplement de mettre un terme à une guerre qui ressemble beaucoup à la guerre 14-18, c'est une guerre de tranchées, c'est une guerre qui évolue peu sur le terrain. Ce sont des conquêtes, je le disais tout à l'heure, qui sont minimes. Mais c'est vrai que la Russie a la main, elle a un réservoir, elle a une dimension, une profondeur stratégique qui est plus importante que l'Ukraine, une population qui est plus importante, dont une capacité d'enrôlement et de renouvellement de ses soldats qui est plus importante, même si la saignée est importante aussi dans les chefs des Russes. Mais je veux dire, la Russie considère que l'Ukraine fait historiquement partie de l'orbite russe. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure les buts de guerre qui ont été engrangés pour l'instant peuvent être définitifs. Je pense pas qu'on va trouver une solution définitive au conflit, on va le geler. On va le geler et on va laisser sa solution définitive pour l'avenir. Peut-être pour un an, pour dans deux ans, pour dans cinq ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, trouver un cessez-le-feu qui soit à long terme. Dégager des... en tout cas, mettre un terme à la saignée. Mettre un terme à la saignée parce que la guerre ne semble pas laisser émerger un épilogue qui soit significativement favorable à l'un ou à l'autre. Personne ne peut gagner cette guerre de façon significative. Les Russes ne prendront pas l'Ukraine et l'Ukraine semble avoir énormément de mal et probablement en éprouvera toujours à reprendre les oblasts qu'elle a perdus. Donc, il s'agit de geler en fait le conflit sur les lignes militaires, celles qu'on observe sur le terrain.
Eh bien, Isaac Franco, je pense qu'on aura l'occasion d'observer de toute manière les développements et les retombées de cette réunion dans les prochaines semaines, puisque
réunion par laquelle on ne parle pas que de l'Ukraine. On parlera également du Proche et Moyen-Orient. On parlera aussi, c'est à l'ordre du jour, on parlera également de l'Iran, on parlera également de Gaza. Donc c'est un ordre du jour très chargé.
Très chargé, que l'on observera donc avec vous, je l'espère. Merci Isaac Franco. Je rappelle que vous êtes analyste politique et chroniqueur de l'émission Cherchez l'erreur, diffusée donc tous les lundis sur Radio
Sauf ce lundi.
Sauf ce lundi-là. Mais lundi prochain, ou peut-être dans les prochaines semaines, en tout cas. Merci beaucoup, à très bientôt.
Au revoir.